1 Samuel 17, je vais lire au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse, Damine, Saül. Et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 ampas. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tissant et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils d'Éphraïm, d'Éphratien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Le roi fils aîné, les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet éphah de grain rôti et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin. Il laissa le brebis et un gardien prit sa charge. Il partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui trouvaient près de lui, que feront-on celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée des dieux vivants? Le peuple répéta la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ce moment, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. On acclame la parole du Seigneur. « le mois de la victoire. Le mois de septembre est réputé le mois de la victoire. Tous ceux-là qui sont nés au mois de septembre, vous avez de la chance, vous êtes victorieux comme tous les autres. Non, je l'ai dit parce que moi-même, je suis de septembre. Si je ne l'étais pas, je pourrais attendre et proclamer le jour où ce mois serait arrivé. Le mois de la victoire, c'est une inspiration. Lorsque j'essaie de lire 1 Jean 4,4, la Bible dit, « Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La victoire, un mot qu'on a toujours prononcé, la victoire, les désirs de tout le monde veut être victorieux. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un thème intitulé « Vivre victorieux, vivre victorieux, vivre victorieux, vivre victorieux. » La victoire, un succès que l'on obtient après un combat et une lutte. Le résultat positif que vous avez sur un défi, la victoire. Mais ici, la pensée de Dieu n'est pas celle d'un résultat, d'un actif encaissé, mais de toute une vie. Vivre victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le passage de 1 Samuel, nous sommes en train de comprendre une chose, qu'il y a une victoire qui a été acquise par quelqu'un. Mais cette victoire n'a pas été acquise. Cette victoire faisait déjà partie de la vie de cet homme. C'est que lui vivait déjà victorieux. La victoire est une affaire de mentalité, est un état d'esprit. C'est en vivant qu'on sait que je suis un victorieux. On n'attend pas le défi pour se déclarer victorieux. J'aime un homme qui a dit... que pour un champion, c'est Zach qui a dit, tout champion, tout homme victorieux, lorsqu'il va dans le combat, il ne va pas pour chercher à gagner le combat. Il n'y va pas pour chercher à remporter. Ce n'est pas en allant là-bas qu'il va chercher à remporter la victoire. Mais le vrai victorieux, avant même d'entrer dans le ring, il sait déjà que j'ai déjà remporté, j'ai déjà gagné. Donc il va là-bas, c'est pour la formalité. Mais son état d'esprit est tel que le match est déjà fini. C'est comme les élections truquées. C'est comme les élections truquées. Les élections truquées sont déjà finies avant que vous n'alliez aux urnes. Tout ce que vous allez faire sont de formalités. Mais on sait déjà qui est le gagnant. C'est de cette manière que nous vivons dans ce monde. C'est de cette manière que Jésus nous a donné ce pouvoir de nous considérer toujours comme de victorieux. Et c'est ça l'œuvre de Golgotha. On ne doit pas se retrouver dans un défi et croire que je suis en train de lutter pour remporter la victoire. Non. Lorsque le défi se présente, votre état d'esprit doit être tel que c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. La victoire est une question de mentalité. Les gens qui sont victorieux, naturellement, vous le voyez, ils ne sont pas effrayés. C'est vrai, il y a un problème lorsque l'humain réclame, mais quand il rentre dans le surnaturel, il réalise qui il est, il réalise la nouvelle créature qu'il est devenu en Christ, il s'est dit, c'est déjà fini. En fait, la victoire n'est pas quelque chose que nous attendons. La victoire est déjà ce que nous sommes. On n'attend pas la victoire sur les célibats. Nous sommes déjà cette victoire en Jésus-Christ. On n'attend pas la victoire sur le péché, mais nous avons déjà vaincu et que nous sommes cette victoire et nous devons transmettre cette victoire.
Gloire au Seigneur. Le passage ici, je suis en train de voir une histoire que nous connaissons bien, mais je sais que l'Esprit de Dieu a quelque chose à nous transmettre ce matin. Le peuple d'Israël, après Josué, il a joué son rôle, il a fini sa mission. Josué a eu à répartir les territoires pour chaque tribu. Ruben, voici ton coin. Nephtali, ton coin est là. Toi, c'est ton territoire. Dis, l'autre, Benjamin, va là-bas. Et chaque tribu savait déjà quel était son héritage. Chaque tribu savait que non, tel territoire, c'est à moi. Mais on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui se retrouve envahi, l'homme de Juda. La tribu de Juda, c'est à elle qu'on avait donné le territoire qu'on appelle ici Soko. C'était l'héritage de Juda. Pour Juda, tu vois le coin, le Soko là, c'est à toi. Mais nous voyons l'ennemi qui dit, oui, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il soit capable d'abord de me déloger pour occuper les territoires. Le Philistin, il laisse tous les territoires, tous les autres territoires, et ils viennent s'emparer de Soko. Seulement ma part, moi, Juda, seulement ma part. On est 12. Pourquoi seulement ma part? Pourquoi il n'a pas pris l'autre coin? Vous comprenez que les Philistins sont les géants, les ennemis du peuple d'Israël qui habitaient dans Gath, une autre partie dans Gaza, sont les trois villes que Josué avait négligé de combattre. Gath, Gaza et Ashdod. Il a négligé, il s'est dit, bon, c'est pas grave. Mais c'est de là que venaient les géants qui ont vraiment malmené le peuple de Dieu par négligence de Josué. C'est des choses que nous négligeons qui finissent par nous malmener dans la vie. Lorsque le Seigneur te demande de détruire, il faut détruire complètement. Lorsque Dieu te dit, détruis-moi ces péchés, détruis-les, sinon il te détruira lui par la suite. Les villes, les cités qu'il a négligées sont de petites villes, mais sont de petites villes qui ont engendré de géants terribles, qui ont sérieusement malmené le peuple de Dieu. À cause de la négligence d'un leader. Je suis en train de dire à un responsable de famille, il y a quelque chose qu'il faut détruire maintenant pour que tes enfants n'en payent pas le prix. Lorsque Dieu est en train de dire, détruis-moi ce péché, il est en train de voir comment les enfants de tes enfants risquent de payer le grand prix pour corriger cette erreur. Pourquoi est-ce qu'on envahit Juda? Pourquoi dans toute la famille, c'est seulement moi qu'on attaque? Pourquoi c'est ma part qui est envahie? Moi, Juda. La vérité, c'est que dans le peuple d'Israël, parmi les 12 tribus, la tribu de Juda, c'est la tribu qui fournissait au peuple de grands guerriers. C'était la tribu où on pouvait retrouver des grands vaillants. Alors, on dirait que c'était la tribu maintenant de guerriers pour le compte de tout le peuple. C'est exactement là que l'ennemi attaque. L'ennemi ne peut pas attaquer n'importe qui dans votre famille. Si vous vous trouvez en train d'être attaqué sérieusement souvent par l'ennemi, c'est que vous avez une grande destinée, vous avez une grande étoile. C'est que sur vous repose l'avenir de nombreux. C'est que vous portez le secret de votre famille. C'est à ce niveau-là que l'ennemi cible. Il dit, je vais frapper ici. Parce que si celui-ci lève la tête, tout le monde est sauvé. Alors lorsque vous voyez que votre enfant, parmi tant d'autres, est toujours attaqué par l'ennemi. L'ennemi essaie de dévier sa mission. Il essaie de le malmener. Il faut mettre un accent particulier sur cet enfant. Il y a une grande destinée qui l'attend. L'ennemi n'attaque pas n'importe qui. Et n'importe où. Il attaque des véritables cibles. Les attaques que nous avons dans notre pays n'ont rien à voir avec les richesses économiques. Ce sont les charnels qui voient que c'est parce que nous sommes un grand pays, riche, tout ça. Non, les spirituels comprennent. La guerre dont nous sommes victimes au Congo, c'est une guerre spirituelle. Parce que le réveil doit partir du Congo pour embraser le monde entier. La prophétie est telle que c'est le Congo qui a la clé du réveil. Alors, l'ennemi n'a rien à voir avec vos minéraux, vos diamants. Non, il est en train de voir quelque chose d'important. Il faut que j'étouffe ce pays. Il faut que je malmène ce pays. Parce que si ce pays rentre dans sa mission telle que prévue par Dieu, nos œuvres sont détruites. Et c'est comme ça que la franc-maçonnerie s'élève. Lorsque vous le voyez comme des hommes d'État. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme de grands occultistes, des grands ambassadeurs du diable qui sont là pour réaliser la mission du diable. Le problème du Congo, ce n'est pas d'abord les matières. Le problème du Congo, c'est sa prophétie. Le problème du Congo, c'est son étoile. Mais je suis en train de dire et de déclarer qu'il se ligue, qu'il fasse tout. Seul ce que Dieu a dit s'accomplira. Oh, le Congo ne va pas démarrer. Nous n'allons pas nous développer parce que les États-Unis ont voulu. Nous n'avons rien à foutre avec les États-Unis. Nous n'avons rien à voir avec Poutine. Nous, nous dépendons de Dieu. Ça, c'est un pays de Dieu. On ne va pas prendre Goma parce qu'on est surarmé. Non, on ne va pas prendre Goma parce que Goma est protégé par le ciel. Le ciel mène la sécurité sur cette ville de Goma. On n'attaque pas Juda pour rien. On sait que si on déstabilise Juda, c'est tout le peuple qu'on a déstabilisé. L'ennemi connaît cela. Lorsque tu as des combats à répétition, il faut revenir sur ta mission. Reviens sur ta mission. Vérifie un peu qu'est-ce que Dieu attend de toi. Tu comprendras clairement que c'est toi que ta famille attend pour tout changer. C'est toi que la famille attend pour que tout marche. Gloire au Seigneur. Et ce que j'aime ici, c'est cette mentalité de victorieux qu'on peut retrouver et dans le peuple et dans la personne de David. L'ennemi a pour mission de nous attaquer, il n'y a pas de problème. Mais dans quel état il nous trouve? Dans quel état il nous trouve? Et nous allons voir rapidement quelques caractéristiques de la race de victorieux. Comment peut-on reconnaître le victorieux? Comment il se comporte? Quels sont les signes? Comment on reconnaît quelqu'un de victorieux? Dans ces passages, nous remarquons une chose, que l'ennemi a osé attaquer un petit territoire, bien que le peuple avait tous les autres territoires, mais le peuple a dit, comme seulement ça nous appartient, on ne laisse pas ça à l'ennemi. Un victorieux n'accepte pas céder quelque chose qui lui appartient à l'ennemi. Si vous êtes de nature à céder, à comprendre, bon ça va, j'ai compris, bon je laisse faire, vous n'êtes pas victorieux. Ce qui est à vous doit rester à vous. Je répète, ce qui est à toi doit rester à toi. Et tu dois tout faire pour garder ce qui est à toi. Soko, c'est le territoire de Juda. Et Juda et tout le peuple vont tout faire pour combattre l'ennemi. Nous devons récupérer Soko. Bounagana est pour les Congolais. Et les Congolais doivent s'élever pour récupérer Bounagana. On ne doit pas faire semblant. Le peuple de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus naïfs et passifs. Et on attend. Et on comprend. Et le résumé congolais est tel que c'est la volonté de Dieu. Qui a dit que c'est la volonté de Dieu qu'on prenne Soko? Qui a dit? Qui a dit que c'est la volonté de Dieu? C'est la peur et la naïveté. Et Dieu ne conjugue pas avec le peureux et les naïfs. Dieu a besoin de vaillants. Il a besoin de victorieux. Il a besoin de gens qui savent que ça, c'est la vérité. Et j'insiste, je m'y accroche. Ça, c'est pour moi. Et je persiste. Je dois le récupérer. N'accepte pas au nom de lien. Il a pris mon mariage. Il a pris notre richesse. C'est ça notre famille. J'ai déjà compris. C'est ça ma maladie. Lève-toi dans la bataille. Lève-toi et réclame ce qui est à toi. Lève-toi! Personne ne va s'élever à ta place. Lève-toi et réclame ce qui est à toi. Parce que la vie que tu mènes est à toi. La vie là que tu mènes est à toi. Vérifie tout ce qui est à toi. Ton père t'a déjà dit. Tu es la tête, non la queue. Tu es riche, non pauvre. Toi, tu es sécurisé. Toi, tu es en bonne santé. Toi, tu es prospère. Ton père t'a déjà dit tout ce qui est à toi. Les lots de tes promesses, tu les connais. Lève-toi et réclame ce qui t'appartient. Ne lâche pas aussi longtemps que tu n'as pas récupéré ce qui est à toi. Les Philistins ne vont pas lâcher Soko parce que vous avez négocié. On ne négocie jamais avec l'ennemi. L'ennemi n'écoute que le langage de la violence. Il faut être brutal avec l'ennemi. Il faut être agressif avec lui. Lève-toi. Nous devons nous lever pour réclamer ce qui nous appartient. Gloire au Seigneur. C'est l'affaire de Judas. Mais c'est tout le peuple qui s'élève. Est-ce que tu t'élèves quand ça concerne ton frère? Tu t'associes aussi à cette bataille? Tu sens vraiment que ton frère est englouti par la pauvreté. Mais tout ce que tu sais, c'est son affaire. Il ne veut pas chercher Dieu. Les 11 tribus pouvaient dire, Judas, ça c'est ton affaire. Nous, nous avons nos territoires. Nous avons nos parts. Ça c'est ton affaire mon cher, va combattre. Non, ils ont dit non. La Bible dit, tous les peuples s'est rangé en ordre de bataille. Tous les peuples. Cet esprit a quitté l'église. L'église est devenue maintenant kippé à eux. Tu as ton problème, c'est à toi. Si tu es attaqué par l'ennemi, c'est ton problème. Si tu es tombé dans l'impudicité, c'est son affaire. Il ira en enfer. Mais le frère est attaqué. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous levons pour l'aider dans cette bataille? Le frère est attaqué. Tu sens vraiment que la vie ne marche pas. Mais est-ce que tu t'élèves pour dire, on doit combattre ensemble cette pauvreté? Je dois t'aider. Et on ne combat pas la pauvreté par de paroles. Combattez la pauvreté par l'argent, par tout ce que vous avez. Vous allez l'enseigner, vous allez lui donner. Ce n'est pas de versets qui vont faire qu'il se relève. Non. Après le verset, donne le capital, aide-le, coach-le. Ce n'est pas la prière. Après la prière, fais ce qu'il faut faire par la suite. Pourquoi pas si tu as 4 maisons, donnez-lui une maison, ça fait quoi? Non, j'ai souffert pour construire cette maison-là. Alors, tu ne comprends pas que c'est un frère qui est attaqué. Hein? C'est un frère qui est attaqué. À quoi ça te servira d'être champion de ta famille avec 8 maisons? Pendant qu'après toi, il n'y a personne qui a même... Ça, c'est quoi? Il y aura proclamation. Il y aura proclamation où? Les 5 premiers vont passer devant. Je veux dire à quelqu'un, dans cette vie que nous menons, le terminus sur cette terre, c'est à Gabiro, c'est à Macao. Et à Macao, on ne sait pas comptabiliser les richesses des uns et des autres. Il s'agit des pourritures qui sont là-bas. Alors si ton frère est attaqué, pourquoi tu ne t'associes pas? Est-ce pour rien que Dieu vous a mis dans une même famille? Est-ce pour rien? Le peuple a compris que nous sommes 12 et il ne doit même pas être supprimé un seul de nous. Nous sommes combien, nous? Est-ce que nous veillons à cette unité, à cette fraternité? C'est l'unité qui rend faible l'ennemi. C'est l'unité. C'est l'unité. On devrait tous être dans le jeûne, dans la prière, toute la République jusqu'à ce que Bounagana soit libéré. Mais il y en a qui sont en train de danser matin, midi, soir, pendant que le pays est assiégé. Parce qu'on dit que c'est leur affaire. D'ailleurs, ils sont complices. C'est de l'irresponsabilité lorsque Dieu voit des choses comme ça de notre part. Ils étaient tous le victorieux, sont unis. L'autre caractéristique, un victorieux est un multistratège. Un victorieux est imprévisible. Un victorieux, on ne peut pas le calculer. Un victorieux, vous ne l'intimidez pas avec vos formules. Goliath savait que le peuple d'Israël, ils sont forts dans les combats de tous. Quand il faut faire les combats de Kinyama, Binyama, vous connaissez Binyama? Quand vous jouez au foot là, quand le Binyama commence là, ça veut dire que tu trouves ton ami, allez, paf, l'autre aussi. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Le Binyama. Nous, on a joué à ça, le Binyama. Il sait que ce peuple est fort. Mais David, étant victorieux, il a compris. Il dit non. Moi, je ne suis pas seulement fort dans le groupe. Même seul, je suis fort. Même dans l'isolement, je suis fort. Un victorieux, il est fort avec les autres, mais il est aussi fort lorsqu'il est isolé. Ne sois pas seulement fort en prière parce que tu es à Goma et tu dois venir au programme de prière. Non, non. Même quand tu es en mission de service, reste fort. Prie comme tu pries avec tout le monde. Médite comme tu médites avec tout le monde. Même quand tu sens que tout le monde est loin de toi, rassure-toi que tu es capable de faire face à l'ennemi. Goliath savait que sa stratégie va marcher parce que personne ne va venir. Il dit, écoutez, vous êtes nombreux. Bon, aujourd'hui, je viens seulement seul. Trouvez-moi quelqu'un, un homme. Si j'ai le bas, vous devenez nos esclaves. C'est là que Saül Ngou vous rimouiche. Parce que Saül savait que si on va dans un combat d'ensemble, en tout cas on va gagner. Mais quand on a dit trouvez-moi un homme, Saül s'est dit l'esprit de victoire était là, mais c'était un esprit appuyé sur les autres. Chacun regardait, chacun il dit, bon, comme il est là, on va gagner. Comme il est là, on va gagner. Maintenant, l'ennemi change de stratégie. Il dit, maintenant, personne ne sera, c'est toi et moi. Toi et moi, viens, toi et moi. Ah, l'ennemi peut tout changer. Il dit, ok, comme le papa est là, je prends le papa. Comme la maman est là, je prends la maman. Maintenant, c'est le seul, je verrai. Est-ce que tu vas gagner? Mais il y a David qui est venu, qui a dit au peuple, soyez rassurés. Soyez rassurés, même dans cette stratégie, je sais faire, je sais m'y faire. Soyez rassurés, ce n'est pas grave, je suis là. Moi, je suis multistratège. En groupe, je suis fort, même seul, je suis fort. La race de David. Tu t'appuies trop sur les gens, toujours les gens. C'est quand les gens sont là que tu fais. C'est quand les gens sont là que tu agis. Pour donner, il faut qu'il y ait des gens qui voient. Mais quand personne n'est là, tu es incapable de donner parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de témoins. Fort en groupe, faible dans l'isolement. Si l'ennemi vient, il te dit, maintenant c'est celle-là seule. Est-ce que tu vas résister? Apprends à donner, que ce soit en groupe, que ce soit dans l'isolement. Fais le bien! Sans chercher d'abord d'appui et de force, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des gens. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai tué l'ours et les lions sans témoins. Maintenant, je vais te tuer avec témoins. Le victorieux, cette mentalité de victorieux. L'ennemi, tout moment, il peut changer de stratégie. Tout moment, il change de stratégie. Il sait que tu l'as déjà découvert d'un côté. Il change de stratégie. Mais un victorieux, même quand la stratégie a changé, c'était d'abord un problème du couple avec ton mari. Problème. Tu as résisté, tu as tenu. Il change de stratégie. Il t'amène à un combat à l'église maintenant, à l'église. Ce sont les frères en Christ qui te combattent. Les sœurs en Christ qui te combattent. Maintenant, tu dis, à l'église, ça je ne peux pas supporter, je pars. À l'église, non. Oh, pourquoi tu pars? On a seulement changé de stratégie. Soyez imprévisible. Il faut le frapper là où il s'attendait le moins. Multistratégie. Il ne tourne jamais dos au défi, un victorieux. Troisième élément, il ne peut pas tourner dos au défi. Il a lancé les défis et tout le peuple a tourné dos au défi. Mais David a dit jamais. Pendant que vous vous retournez, moi j'avance vers lui. Il ne peut pas. Pourquoi ne pas tourner dos à l'ennemi? Parce que tout simplement, David connaît une chose. Que ce qu'il est en train de dire, c'est parce qu'il n'a pas de force. S'il était fort, il n'allait pas se mettre à crier. Il allait seulement agir. Alors quand tu vois quelqu'un parler trop, crier trop, après avancer, parce que ça veut dire qu'il n'a pas de force, il va seulement t'intimider. Quand tu vois un problème, crier au devant de toi. N'aie pas peur, avance, parce qu'au fond c'est vide, il n'y a rien. C'est un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit. Alors avance, tu verras qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce que celui qui va frapper ne parle pas trop, il frappe seulement. Quand Poutine voulait frapper, il n'a pas trop parlé. Il parlait seulement en demi-mot. Mais pour la frappe, il y a eu des longues frappes. Mais ceux qui vont frapper, ils se mettent là à crier, mais ils font rien. Gloire au Seigneur. Ne tourne jamais dos au défi. Rassure-toi que tu es là. Rassure-toi que tu es là. Et enfin, un victorieux ne combat jamais avec les armes de l'ennemi. Vous ne pouvez pas utiliser les armes de l'ennemi. Vous savez ce qui est compliqué avec l'ennemi? Quand il vient te jeter un défi, il te propose même ses armes. Il te propose ses armes. Il te jette un défi de célibat. Et il te propose déjà les raccourcis. Lui-même, il est prêt à rapprocher le sugar daddy. Il rapproche le sugar daddy. Et tu sens vraiment que tu as l'onction de sugar daddy. Tu as l'onction. Tu commences même à dire, c'est possible que l'on soit deuxième bureau. Et puis le Seigneur agrée. L'ennemi te propose ses armes. Il te le propose. Tu es frappé par la pauvreté. Tu ne sais pas comment construire, comment investir. Il te propose de voler, de détourner. Il te propose ses armes. Regarde, tu veux vaincre ce problème? Regarde ici, prends ça, fais ça. Regarde ici. Même à David, on a proposé des armes. Il a dit, mais les mêmes armes que j'ai ici, ce sont les armes. Saül, l'armure que tu me donnes là, c'est presque pareil avec celle de Goliath. Je risque d'être similaire à lui. Tu ne comprends pas, Saül. Ici, ce n'est pas moi qui combat. Si je porte cette armure, je deviens humain. Mais dans ce ring ici, je ne suis pas humain. Ici, je suis même invisible. Il ne me voit même pas. Mais si je porte l'armure, j'utilise les armes du monde, je deviens humain. Je deviens normal comme lui. Ici, c'est une autre affaire. Moi, je suis en train de voir un oiseau et on ne tue pas un oiseau avec une roquette. Saül propose une roquette parce qu'il est géant. Goliath est géant. Alors il a eu ta soit. Mais il dit non. Notre combat est dans le spirituel. Notre combat est dans le surnaturel. Toi, tu vois un homme. Moi, j'ai affaire à un oiseau. Et pour un oiseau, il faut juste un petit caillou. Juste un petit caillou. Saül, et on le voit ramasser, Saül dit, ça doit être un petit fou. Mon lettre à mon avazim, mina va regretter. Mon lettre à mon avazim, on a au petit maïbou. Saül ne comprend rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, cesse d'être charnel. Cesse d'être charnel. Le problème que tu as, tes défaites, c'est parce que tu es trop charnel. Tu vois les choses avec tes yeux. Tu vois tes ennemis avec tes yeux, mais jamais avec les yeux spirituels. Ce que tu ressens, c'est ce que tu vois, et puis c'est tout. Ne combats jamais l'ennemi avec ses armes. Tu veux avoir une promotion? Tu as un défi? On ne t'élève jamais? Tu veux maintenant entrer dans le coup bas pour créer des problèmes aux collègues? Et tu penses que c'est une arme qui va te servir pour t'élever. Ne combats jamais. Celui qui veut être grand, la seule arme que Jésus nous a laissée, c'est le service. Nous avons les armes que Dieu nous a proposées depuis. Par rapport à chaque défi, il y a une arme appropriée. Reviens dans la pensée de Dieu. Saisis l'arme et utilise-la. La race de victorieux. La race de victorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. La Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce que les défis, quand il se présente au devant de nous, il doit déjà voir Christ. Au lieu de voir Pacifique, il voit Christ. Et il dit non, ici il n'y a pas moyen, la victoire est assurée. Christ est notre victoire. Jésus est notre victoire. Lorsque mon pays comprendra que il faut seulement que Jésus revienne sur son trône de grâce, tout va s'arrêter. Et l'ennemi ne va pas comprendre quelle arme nous avons utilisée pour les confondre. Est-ce que tu as besoin de cette victoire ce matin? Tu as besoin de devenir victorieux. Tu as besoin qu'à partir d'aujourd'hui, ton état d'esprit change, ta mentalité change, que tu cesses de fléchir devant n'importe qui et n'importe quoi. Seulement parce qu'il s'appelle grand, seulement parce qu'il s'appelle chef, seulement parce qu'il s'est dit j'ai beaucoup d'argent. Tu es prêt à hypothéquer ta dignité, ton honneur, même ton Jésus. Non. Un victorieux reste du côté de Dieu. Il reste du côté de Dieu. Chante avec moi ce cantique. Victory belongs to Jesus. La victoire appartient à Jésus.